Ah ben bonjour à tous. Donc on va parler dans la continuité du XML d'un truc que vous n'avez peut-être pas anticipé, qui est SVG, donc une technologie de dessin sur le web, qui est à base de primitives XML. Donc on s'était dit, essayons de les surprendre avec ce qu'on peut faire avec du XML. Donc je m'appelle David, je suis ce qu'on appelle un évangéliste, je fais que du HTML5 quasiment tout le temps et beaucoup de jeux vidéo. Je sais, j'ai un métier difficile et vous pouvez me suivre sur Twitter ou sur mon blog. Voilà, ça résume ce que je viens de vous dire. Et ben on va commencer par des démos, avant tout sur SVG. Alors, qui connaît déjà SVG ? À peu près 5 personnes. Et puis, même des gens du marketing qui connaissent. On va voir pourquoi. Donc, on va commencer par les démos sur SVG, pour vous montrer à quoi ça sert. Un des scénarios les plus classiques d'usage du SVG, ça va être ça. Ça va être des graphiques. Et pourquoi c'est un usage classique ? C'est que SVG, ça veut dire Scalable Vector Graphics. C'est une technologie qui permet du coup d'être vectorielle, donc s'adapter à n'importe quelle résolution. Aujourd'hui, c'est particulièrement intéressant parce que dans la plupart des projets que vous allez avoir, que ce soit dans le web pur ou sur, comme le disait Sébastien tout à l'heure, une application de type HTML sur Windows, WinRT, vous avez besoin de vous adapter à tous les périphériques. Donc c'est quand même plus simple d'avoir une technologie vectorielle qu'avoir une technologie de type bitmap où on va dessiner par exemple en 1024-768 qu'on va tirer après. Donc ça c'est du vecto, c'est souvent utilisé pour faire ce genre de choses, c'est-à-dire qu'imaginons que vous avez des données en base de données, vous avez votre couche de base de données, votre layer, ça va remonter tout ça vers le client, et avant en web, vous vous souvenez peut-être de l'époque des rapports qu'on pouvait faire dans nos solutions BI, c'était des images statiques qui étaient renvoyées. Là comme on renvoie le jeu de données en XML, je peux m'amuser à avoir des animations de manière dynamique côté client sans plus avoir aucune interaction avec le serveur. Une librairie que j'affectionne particulièrement, c'est iCharts, qui est gratuite pour un usage perso et pas très cher pour un usage pro, on en verra tout à l'heure. Parce qu'on va voir que XML, c'est extrêmement verbeux, donc vous n'avez pas forcément envie d'écrire le XML à la main ou de le générer à la main, donc on va voir des librairies. Donc là, un exemple de compteur qu'on pourrait imaginer dans une application business, de suivi, de monitoring avec maintenant les fameuses IoT. Donc si vous voulez suivre les capteurs, par exemple, avec du SVG, on pourrait imaginer ce genre de scénario d'usage. Et pour finir, un dernier scénario que moi j'aime bien et qui montre bien le côté vectoriel, ça va être tout ce qui va être partage de schémas dans une entreprise ou tout ce qui est pédagogie. Dans ces cas-là, on peut zoomer sans souci à l'intérieur du diagramme. On n'a pas de perte de définition parce que c'est un format vectoriel, je vous le rappelle. Et donc, je vais pouvoir m'adapter parfaitement au client cible. Imaginons qu'on fasse ça sans SVG, donc avec du PNG, du JPEG classique. Souvent, vous allez faire la résolution donnée, comme ça, en disant bah, « ça marche bien sur mon moniteur ». Il y a une personne qui a la chance d'avoir un moniteur 4K, parce qu'il y a beaucoup d'argent à dépenser, il s'achète un moniteur 4K. Par exemple, moi, je vais recevoir ça et je vais zoomer, ça va être ce qu'on appelle dégueulasse dans le jargon du pixel. Donc, si jamais je l'envoie en vectoriel, je vais pouvoir m'adapter parfaitement à la taille de l'écran. Bonus, on pourrait imaginer de faire l'image en plusieurs résolutions, 1024, 2048, 4K. L'avantage, c'est qu'on ne l'a qu'une fois et souvent, des fois, c'est même plus léger dans certains cas que la version non vectorielle. Donc, voilà pour une petite intro. Le teasing. Alors, on est dans le monde HTML5, on a plein de jolis logos qui nous parlent du monde HTML5, les nouvelles balises, la gestion du stockage offline, l'accès aux périphériques. Donc là, on est dans le monde merveilleux de la 3D graphique et des effets, donc on ne parlera pas de 3D aujourd'hui, mais c'est dans cette section-là. Donc, si je résume, aujourd'hui, SVG, dans les bases, c'est une API pour dessiner en 2D, basée sur des primitives XML. On a ce qu'on appelle un mode retain, quand on fait du dessin, il y a deux façons de faire du dessin. Soit on laisse finalement la plateforme s'occuper de maintenir le modèle objet en mémoire et de gérer les primitives de dessin pour vous. Donc je dessine un carré, il se souvient que j'ai dessiné un carré, je vais pouvoir cliquer sur le carré de manière super simple, on va le voir. Soit on a un mode qui s'appelle Fire and Forget, souvent utilisé dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que je dessine une frame et le coup d'après, la machine est entièrement oubliée, c'est à moi de maintenir finalement la mise à jour de la prochaine frame et savoir où j'ai dessiné, où je fais bouger mes objets. Donc forcément, le mode retain coûte un peu plus en mémoire, mais vous offre plus de services. Si vous êtes développeur web, vous savez ce que c'est que le document object model, là où se trouve finalement votre arbre HTML, le SVG s'inscrit dans ce DOM. Et comme c'est finalement identique à du HTML pour le navigateur. Vous allez pouvoir le coupler avec du CSS pour le styler et même des technologies d'accessibilité comme ARIA, qui est souvent impossible à faire si vous prenez par exemple une zone de pixels dynamiques comme le canvas. Vous n'allez pas pouvoir le rendre accessible. Si vous savez que vous avez dessiné un carré au milieu de votre écran, un lecteur d'écran pour une personne aveugle ne le sait pas. Par contre, avec cette techno, comme elle est exposée dans l'arbre du navigateur, on peut dire à la personne malvoyante, à cet endroit-là, il y a tel type de forme qui représente telle chose, avec cette technologie d'accessibilité. Pour pouvoir faire ça, soit vous générez un fichier SVG avec un outil genre Illustrator ou des outils gratuits, soit vous l'insérez, et donc ça fait un point SVG, donc vous avez un tag image, au lieu de mettre image source égale toto.png ou toto.jpeg, ça devient toto.svg, donc c'est vraiment totalement transparent pour vous à l'intégration, soit vous l'insérez directement dans le document HTML5. Alors voyons à quoi ça ressemble. On va commencer très très fort. Voilà, puis on peut même zoomer du coup, puisque ça ne pose pas de problème. Donc au début, vous vous lâchez, vous faites plaisir, vous faites un carré, un rond. Donc on va voir à quoi ça ressemble au niveau du fameux DOM. Ça ressemble à ça, c'est-à-dire que ici, j'ai mon document HTML, et là j'ai ma balise SVG qui est présente, qui déclare finalement une ouverture de balise, où je déclare ma zone de dessin, elle fera 1000 pixels par 1000 pixels. À l'intérieur, je fais un rectangle de 100 par 100 que je vais remplir en bleu, et un cercle finalement à l'intérieur. Donc pour vous aider peut-être à mieux y voir, je vais charger mon outil préféré qui est Zoomit. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc de l'autre côté, vous voyez bien qu'il m'a dessiné, j'ai décrit mon schéma, mon dessin, et il me l'a dessiné. Alors je peux le modifier, c'est-à-dire que si j'ai envie de faire, un cercle que je vais mettre plutôt le centre du cercle à 200 pixels sur la gauche. Faut que j'édite ce truc-là. Il ne veut pas me laisser l'éditer. Mais ça marchait dans mes répètes. Non, mais je n'ai pas besoin de faire pause normalement. Ah oui, je vais cibler le truc. Non, mais pause, il m'a tout pété du coup. Je recommence. On va ici, on cible l'élément, je veux viser le cercle. Voilà. Et il n'est plus là. Bon, tu avais peut-être raison, il fallait peut-être répéter. Alors je vous le montre. Sans le navigateur, vous utilisez Sublime Text ou Visual Studio, où on est en train d'annoncer qu'il passe gratuit, pour la quasi-totalité des cas. Donc, moi, j'utilise Sublime Text, c'était avant que je sache que Visual Studio, c'était gratuit. Alors que je ne paye pas les produits, c'est bizarre. Donc, je vais déplacer le centre de mon cercle un peu vers la droite. Donc, si je recharge la même forme maintenant, tintin, ça commence à bouger. Donc là, vous allez vous dire, ça va être vite pénible de faire ça à la main. Donc on va voir qu'il y a des outils qui gèrent ça ou des librairies. Donc ça, c'est la base de tout. Une fois que vous avez travaillé avec un designer comme Michel chez nous, vous pouvez faire ce genre de scène qui est entièrement vectorielle. Donc il va s'adapter parfaitement à votre résolution. Et ce qui est pas mal, si vous vous souvenez, finalement, on avait Flash et Silverlight qui nous proposaient aussi des contenus vectoriels. On avait toujours le problème de l'indexation de nos pages qui étaient faites comme ça. Donc moi, si je fais CTRL-F ici et je cherche mon texte, même s'il est sur un pass un peu particulier, le navigateur est capable de le retrouver dans la page. Et ça veut dire qu'aussi un moteur de recherche type Bing ou Google est capable de retrouver le texte de votre page sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Donc vous avez l'indexation gratos, même pour une interface qui serait entièrement vectorielle, parce que c'est basé sur des standards qui sont lus par le navigateur. Donc là, on peut voir que n'importe quelle forme ici, si je vais viser par exemple le haut du petit cirque ici, j'arrive dans mon document object model et puis je vois la forme qui correspond. Donc on voit bien que c'est présent en mémoire au niveau du navigateur. Pour finir, on peut le coupler avec du CSS. Donc vous voyez, quand je passe ma souris, ça change la couleur de certains éléments. Je n'ai aucun code JavaScript pour faire ça. Si je vais voir dans le source, je vais voir à quoi ça ressemble. J'ai un tout petit peu de CSS au démarrage, ici. C'est-à-dire que je lui dis tout ce qui est sur la classe green rectangle, tu le mets en vert. Et sur la pseudo-classe hover, quand tu vas passer ta souris au-dessus d'un élément, tu vas le remplir en jaune. Donc on commence avec la première déclaration ici, on dit, bah, tu fais un premier rectangle qui va faire 100% des 75 pixels définis. Quand je donne pas de couleur, par défaut, c'est noir. Le deuxième, il a la classe GreenRect qui est ici, donc ça sera vert. Le troisième, je fais du Still Inline. En CSS, ça va être prioritaire sur tout le reste. Et pour finir, le dernier, je le remplis en rouge directement avec un attribut SVG. Donc je résume, le premier, il est noir. Le deuxième, il est vert, c'est une classe CSS. Le troisième, il est pink, pour faire plaisir aux gens qui adorent le rose, en Still Inline. Et le dernier, il est rouge. Par-dessus ça, j'ai du pseudo-classe CSS qui va me modifier la couleur en jaune. Donc là, il passe jaune, jaune. Il ne passe pas jaune. Pourquoi ? Une réponse ? Parce qu'il est en dur en CSS, effectivement, et c'est prioritaire sur ma pseudo-classe. Et le dernier, il passe en jaune. Et vous avez vu que j'ai aucun code JavaScript pour le faire. C'est pratique pour faire des interfaces de ce type-là. Ça me rassure qu'il y ait quelques personnes qui suivent. Surtout ceux qui sont fans de rose, ça me paraît assez logique. Donc il y a une autre technologie de dessin qui existe, qui s'appelle le canvas, qui est un petit peu à l'opposé de SVG dans les usages. C'est-à-dire que là, vous voyez que SVG est basé sur des formes, des vecteurs, une description complète de manière impérative par XML. Ça est maintenu dans le DOM, vous pouvez le modifier par CSS ou script. De l'autre côté, en fait, c'est tout vous-même qui devez le gérer avec des librairies. Donc c'est pour faire des jeux vidéo ou lorsque vous avez besoin de beaucoup de performance, afficher énormément de points à l'écran. Ça va coûter cher, le côté SVG en mémoire et en performance, le côté vectoriel, là où finalement le canvas va être plus rapide. Il faut le voir comme du PNG dynamique, de l'autre côté. Donc, j'en parle rapidement parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, comme ce n'est pas du tout XML, mais gardez en tête que vous avez deux technologies de dessin en HTML5. Les scénarios clés qu'on va voir côté SVG, ça va être... de l'affichage de rapports, donc je ne les ai pas ici, mais c'est exactement celui que je voulais vous montrer ici, dans les bases, scénario clé, c'est celui-là. Un diagramme comme celui-là, vous n'allez pas vous galérer à le faire en primitif de dessin en JavaScript, vous demandez à votre designer de faire tout ça avec un outil de dessin, de l'exporter et de pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est un des scénarios clés. La cartographie, vous allez sur Bing Maps. Et vous faites une recherche, par exemple, entre la maison, 39 quai du président Roosevelt, parce qu'on habite ici. Il nous empêche de sortir, aidez-nous, jusqu'à la tour Eiffel. Faites go. Il ne connaît pas ici les moulineaux. Je me serais attendu à ce qu'il zoome, mais... Bon. Ici les moulineaux, il va trouver quand même. Voilà. Et ce que vous voyez ici dessiné, si vous faites un F12 pour voir un petit peu ce qui se passe côté DOM et que vous arrivez à viser cette zone-là, normalement, je n'ai pas réussi à bien le viser, mais à côté de l'image, donc on va zoomer un peu plus, à côté de cette image, le trait qui est redessiné, c'est du vectoriel. Pourquoi c'est du vectoriel ? Ça s'adapte parfaitement à la résolution, le niveau de zoom. Donc vous n'avez aucune perte de définition. Donc ce qu'ils font, c'est au-dessus d'une cartographie qui elle, est en bitmap, ils vont dessiner tout le tracé en vectoriel. Donc tous ces scénarios-là, où finalement on a besoin d'être indépendant de la résolution et d'afficher des données de la cartographie par-dessus de la cartographie, SVG est meilleur que Canvas à côté. Et je les résume un peu ici. Documents vectoriels, les rapports, vous avez des jeux de données côté serveur, vous voulez modéliser côté client, il vaut mieux les faire en SVG. En plus, vous avez une utilisation qui est plus générique, c'est que vous pouvez coupler ça avec du CSS. Votre souris passe au-dessus d'une carte où il y a tous les états qui sont modélisés, vous savez voir au-dessus de quel état vous êtes. Si vous faites ça avec une technologie type Canvas, vous êtes obligé de savoir où la souris en XY et de vous souvenir ce que vous avez dessiné à cet endroit précis et dire bah là, par exemple, c'est l'état de Alaska, par exemple. En CSS, vous dites juste quand la souris est au-dessus d'un élément, bah, tu changes sa couleur et c'est terminé. C'est le navigateur qui fait le boulot pour vous. Si vous voulez imprimer, vaut mieux le faire du SVG, forcément, parce que si la personne a envie d'imprimer en A5 ou en A0, bah, ça, c'est du vectoriel, on s'en fiche. Et c'est mieux pour l'accessibilité et le Search Engine Optimization. Pour finir, je voulais vous montrer quelques librairies sympas qui sont connues. Parce que vous avez deux solutions maintenant. Soit vous générez le XML à la main, depuis un outil, soit vous le faites par code. Donc vous avez un code C#, JavaScript, n'importe quoi, qui émet des balises XML qui vont les mettre dans le DOM. Soit il y a des librairies qui vont vous aider. Une qui est une des plus connues, elle s'appelle Raphael.js. Alors tout s'appelle .js hein, dans le monde du web. Hein. Donc créez ce que vous voulez, mamère.js, faites-vous plaisir. Et en fait, ça ressemble à ça, c'est que vous avez un modèle objet qui est géré pour vous, justement, et vous allez instancier la zone de dessin avec le moteur Raphael, et vous allez lui demander de dessiner certaines choses, de remplir, par exemple, d'une certaine couleur en rouge ici, la forme, etc. Donc vous allez retrouver ce truc-là sur raphaeljs.com. Et ce truc est vraiment bien parce qu'on n'a pas parlé de la compatibilité des navigateurs. SVG, ça arrive chez Microsoft à partir de Internet Explorer 9. Alors peut-être que vous avez la chance que vos clients ont tous basculé sur un navigateur au moins aussi récent qu'IE 9, mais je sais que ce n'est pas toujours le cas. Donc imaginons que vous êtes encore sur l'IE 8 ou moins. Ça gère ce qu'on appelle un fallback sur l'ancienne technologie qui s'appelait VML. Et donc du coup, c'est, au lieu de faire à la fois la version SVG à la fois la version VML, vous utilisez cette librairie, ça le fait pour vous. Comme iCharts que je vous ai montré au début. Donc, je ne sais pas combien de temps il me reste.
Approximativement 5 minutes.
Parfait, c'est exactement ce que j'avais timé. Donc on voit un exemple ici que je pourrais vous partager sur JS Fiddle. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas JS Fiddle, c'est assez pratique. Ça permet de tester finalement des librairies sans installer quoi que ce soit dans un navigateur. Vous allez dessus. Vous choisissez votre librairie, donc les plus connues sont dedans. Typiquement, là, il y a Raphael que j'ai choisi. Vous décrivez votre HTML, le CSS éventuel, votre JavaScript, et il y a la zone de rendu. Donc ça permet de tester une librairie comme ça. Et ce qui est surtout bien, c'est que vous pouvez sauvegarder l'URL et l'envoyer à un collègue en disant « Toi qui es fort en Raphael, j'ai fait ce truc-là, j'arrive pas à m'en sortir, est-ce que tu peux m'aider ?» Ou inversement, pour partager à la communauté sur Stack Overflow que vous avez cherché à avoir de l'aide pour débugger. Et là, on voit un exemple tout bête qui est « Je remplis de vert la première fois, mais de bleu la deuxième. » Donc, vraiment tout bête. On peut aller un peu plus loin en faisant... Il y a un moteur d'animation. C'est-à-dire que si je clique dessus sur la forme rouge, on voit que je vais lancer une animation linéaire qui va durer 3 secondes et qui va faire grandir la forme et changer également la couleur. Donc voilà, c'est-à-dire que vous auriez pu le faire avec un event qui est levé à la fin, vous auriez pu le faire vous-même, mais là, la librairie vous donne le service. Bref, il y a plein de trucs qu'on peut faire dedans, et il y a une démo que j'adore, qui est celle-ci, je ne me lasse pas de la regarder. Hop, je vais passer en 100% pour qu'on voit mieux. C'est que, vous voyez, le peu de lignes de code qu'il y a à ma gauche, ça rappelle un peu jQuery dans les enchaînements de code. Je peux faire ce genre de truc où je vais avoir des animations de type bounce. Non, là, du coup, je l'ai mis en linéaire. Mais si je veux changer le bounce, c'est ici que je vais pouvoir changer le type d'équation que je mets sur les animations. Vous voyez, il y a très peu de code pour faire ça. Et donc ça veut dire que vous pouvez soit décrire des trucs rigolos, des interfaces par code, et du coup, elles seront en SVG ou VML pour les anciens navigateurs, et en plus, elles seront vectorielles partout. Donc ça, c'est pour la partie sympa sur la création d'interfaces graphiques. iCharts, je vous en ai déjà parlé, mais je pense que c'est une des librairies qui risque de la plus vous intéresser. C'est pour faire de l'affichage de données, de tableaux de bord. Donc là, vous voyez que j'ai une courbe qui est affichée avec des petits points sur lesquels je peux passer sur ma souris. On a la possibilité d'éditer dans la même solution qu'est JS Fiddle pour aller modifier un petit peu et jouer avec le code. Vous allez voir éventuellement les options. Vous allez voir en fait comment ils ont configuré le contrôle. Et en fait, c'est assez simple, c'est que vous choisissez le type de chart que vous voulez et à la fin, vous lui donnez ici un tableau de données qui sont en format JSON. Donc, imaginons que votre serveur, il est par exemple sur un stack WCF, soit vous renvoyez du classique, du SOAP XML, mais vous pouvez aussi lui renvoyer du REST JSON. Ça renvoie les jeux de données de la base de données. Côté client, je le mets dans la librairie et boum, j'ai des beaux rapports tout magiques qui fonctionnent, qui sont Vecto, qui marchent sur toutes les plateformes, parce que iCharts a le bon goût également de supporter IE 8 et inférieur. Donc moi, j'ai fait un exemple dans JS Fiddle, qu'on pouvait reprendre également. Alors là, comme la librairie n'est pas référencée, le premier truc qu'il faut faire, c'est d'aller chercher les librairies en ligne sur leur CDN, ensuite d'avoir du HTML classique. Et j'ai été modifier une valeur. Vous voyez, j'ai fait exprès par rapport au chart de tout à l'heure pour m'amuser à apprendre à modifier la librairie et puis pouvoir jouer avec. Et bon, moi, je trouve ça relativement sexy. Un autre truc que j'adore, et je finirai par cette librairie-là, cette librairie qui s'appelle D3JS, qui est assez connue pour faire de la visualisation de données également. Alors celle-ci, elle est gratuite et open source. iChart, c'est un petit peu payante, mais elle n'est pas chère. Et en fait, il y a des tonnes de graphiques, je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça m'impressionne. On va prendre celui-là, par exemple. Donc imaginons que vous, ça vous parle. Eh ben, vous pouvez modéliser ça, mais super facilement, quoi. Et en soirée, je pense qu'il y a moyen d'impressionner les gens, quand même. Donc vous voyez que, allez voir sur d3.js tous les exemples. Il y a pléthore d'exemples. À nouveau, à chaque fois, il y a le code source qui va avec pour le mettre en place. Et en dehors des exemples un petit peu science-fiction qui est au démarrage, vous allez retrouver des trucs que nous, on a utilisés, typiquement celle-là. Ça, moi, je l'ai réutilisé pour faire un benchmark, pour pouvoir mesurer le FPS moyen sur une machine. Et ben, j'ai utilisé ce truc-là, je lui ai donné du JSON à nouveau, et ça me donne des courbes magiques pour utiliser dans des rapports. C'est Vecto, c'est super bien, ça marche sur le mobile et sur tous les formats. Donc, je les ai un peu résumés ici. Raphael.js, ça supporte SVG, VML, c'est utilisable un peu à la jQuery. iCharts, pareil, double support, mais c'est plutôt dans une utilisation commerciale, ça coûte pas très cher. Hein, de mémoire, c'est genre $150. Librairie de charting, ça, c'est très bien, d3js.org. Ensuite, je n'ai pas parlé de la génération de SVG avec des outils parce que j'avais que 20 minutes, mais il y a soit Illustrator, qui n'est pas gratuit, mais qui génère du SVG, soit vous avez Inkscape, ou SVG Edit qui fonctionne dans le navigateur, qui est hébergé chez Google, qui vous permet en fait de faire une espèce de pseudo-paint dans le navigateur qui crache du SVG. Donc avec tout ça, vous êtes armé pour, si à un jour vous avez besoin de faire des rapports dans le navigateur, que ce soit d'ailleurs dans le navigateur pur ou une application hybride, hein, ça pourrait être, on a vu tout à l'heure du XAML, mais on pourrait mettre une WebView par-dessus qui héberge ces librairies, ça fonctionnerait, ou une application pure HTML, chez nous, sur Windows et Windows 8.1. Et je vous remercie. Merci.